Bonsoir. Ça va? C'est bon? Alors, j'ai une question à vous poser ce soir. Enfin, j'en ai pas qu'une, vous avez l'habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et une poule? Ou alors, qu'est-ce... Oui? Elles n'ont pas de dents, effectivement. Elles n'en ont pas des choses, hein. Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un poisson rouge à ce moment-là? Comment? La mémoire. Ah! On commence à y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Comment? Le langage, ouais. La conscience. En gros, on a une tête plus remplie que la tête de la poule. D'accord? D'ailleurs, si vous regardez la différence entre votre tête et celle d'une poule, vous allez voir, il y a quelque chose qui... Donc, dans cette tête, qu'est-ce qu'il y a? Ben, normalement, il y a un cerveau, donc... Je me suis dit que vous faire un cours de neurophysio ce soir, ça ne vous brancherait peut-être pas. Il y en a que je sais qui aimeraient bien beaucoup, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, je crois que ce n'est pas votre trip. Alors, on va faire autre chose. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai une question à vous poser ce soir. Être ou ne pas être sage. Alors, ce soir, j'ai envie de vous entretenir sur la sagesse. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot de sagesse? Être sage, ça veut dire quoi? Quand on est un adulte, hein, bien sûr. Comment? Prendre des bonnes décisions, ouais. Avoir de l'expérience et du recul, ouais. Tout ça, c'est bon. En fait, il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plein. Oui. Savoir se taire. Bon, bah, à demain. Alors, j'ai été chercher dans le dictionnaire. Et donc, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. C'est ce que dit Monsieur Larousse. Donc, la sagesse, c'est le fait d'être humain. Vous savez que les êtres humains, on se différencie des animaux du fait qu'on s'appelle Homo sapiens. Sapiens, je crois même deux fois. Et sapiens, c'est la sagesse. Donc, normalement, on est censé avoir de la sagesse. Donc, l'homme adulte est un être pensant, capable de réflexion et de décision. Jusque-là, vous me suivez? Ouais, on est d'accord? Est-ce que vous vous considérez comme des êtres pensants, capables de décision et de réflexion? Ouais, non, si, pas trop, un peu, beaucoup. Alors, évidemment, si je vous pose la question ce soir, c'est quel est le lien entre la parole de Dieu et la sagesse? Sinon, vous seriez en cours. Alors, c'est quoi le lien entre la parole de Dieu et la sagesse? Dieu et la sagesse. Alors, effectivement, Dieu et sagesse, mais nous, le lien entre la parole de Dieu et la sagesse, pour nous. Dieu nous apporte la sagesse grâce à sa parole, puisqu'elle est sagesse. Alors, j'ai envie qu'on prenne un exemple dans la Bible de quelqu'un qui était très sage. Quelqu'un qui était très sage, ben, on va prendre Jésus. Tu l'avais deviné? On va prendre Jésus. Luc, c'est le seul qui nous parle, Luc l'apôtre, c'est le seul qui nous parle de Jésus et il nous dit que l'enfant, donc on parle de Jésus, grandissait et devenait fort. Alors suivant les versions, vous avez fort, c'est sur le plan physique, hein, il grandissait, il est né bébé, il a fini adulte et il était rempli de sagesse, de grâce et la grâce de Dieu était sur lui. Donc Jésus était rempli de sagesse. Alors, est-ce que cette sagesse, il l'a eue tout de suite, comme ça, le jour où, quand il est né, vous vous souvenez, il est né dans une étable, est-ce que sa sagesse, il l'avait tout de suite? Ben, en fait, un peu plus loin, Luc nous dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a un processus de progression, et s'il y avait ce processus de progression chez Jésus, on peut supposer qu'il l'est chez nous aussi. Alors, je ne vous expliquerai pas pourquoi, sur un plan intellectuel, la maturation du cerveau fait qu'on est capable de réfléchir au fil du temps. Toujours est-il qu'à un moment, on est des êtres pensants et il va falloir progresser dans cette sagesse. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit que Jésus était agréable à Dieu, Donc ça, c'est bien, on y aspire. Et aux hommes, c'est-à-dire que cette sagesse, elle n'est pas que dans notre cœur, elle doit se voir, elle doit retentir dans notre vie. Un peu plus loin, on a un autre exemple sur lequel on pourrait s'appuyer. Alors donnez-moi un jeune homme dans le Nouveau Testament dont on parle, mais après les évangiles. Alors celles qui ont la vidéo sous les yeux, elles se taisent. Un jeune homme dont on parle dans le Nouveau Testament, mais pas dans les évangiles. Après, citez-moi un nom d'un jeune homme. Mince, ils ont sorti le bon tout de suite. J'attendais Eutychus. Parce que qu'est-ce qui a caractérisé Eutychus? C'est que lui s'est endormi au moment où il devait écouter le message et ça lui a coûté la vie. Il a un coup de bol que Paul ait prié pour lui et qu'il soit ressuscité. Donc effectivement, le deuxième dont il est question dans la parole de Dieu, au moins après Eutychus ou avant, je ne sais même pas, il s'agit de Timothée. Timothée, ce qu'il caractérisait, c'était qu'il était jeune. Il était même, je pense, jeune pasteur, enseignant. Et Paul va lui écrire. Et il va lui dire, depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduira au salut par la foi en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Paul va parler de cette vraie sagesse. Parce que probablement que s'il y en a une vraie, il y en a une qui ne l'est pas vraie. D'accord ? Vous commencez à me voir venir. Alors, de quoi parle-t-on dans la Bible quand on parle de sagesse ? Donc là, je raffole de ces moments où je vais vous faire du grec. D'accord ? Donc j'ai un don pour les langues, c'est-à-dire que même le français, j'ai du mal. Alors, en grec, la sagesse se dit sophos. D'ailleurs, ça a donné le prénom Sophie. Sophie veut dire sagesse. Et mon diaporama est ainsi fait que vous avez aussi quelque chose que, par exemple, quand on dit coton hydrophile, phile, ça veut dire qui aime. D'accord ? Donc, vous voyez où je veux en venir ? Pas coton hydrophile sagesse, hein, coton sagesse. Celui qui aime la sagesse, il y en a qui lisent le grec ? Voilà, philosophia, la philosophie. Ce soir, je voudrais qu'on parle de la philosophie. Alors là, vous avez toute la parole pour me donner vos impressions sur la philosophie, ce que vous pensez de la philosophie. Qu'est-ce que ça évoque ? Oui, tu adores la philo. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la philo ? Il y en a qui n'aiment pas la philo. Pourquoi tu n'aimes pas la philo ? Non, mais... Tu n'as jamais une bonne note ? Moi non plus. Enfin, si. Une. C'est bizarre. Je voyais une autre main se lever par là. Oui, vas-y. T'aimes pas la philo. Qui aime la philo ? Ah, pourquoi tu aimes la philo ? Vas-y. Ouais. Eh ben voilà, les sciences humaines découlent de la philosophie, donc psycho et sociaux et anthropos, et voilà. C'est pour approfondir la réflexion. Effectivement, la philosophie a pour but de nous faire réfléchir. Quoi d'autre ? D'autres choses sur la philo ? Alors, qui en a fait pour le bac ? Ok, qui va en faire ? Dans ceux qui en ont fait... Est-ce que vous aviez l'impression que votre prof était plutôt... On ne jugera pas les profs. Est-ce que vous aviez la sensation que vos profs faisaient le lien entre la Bible et la philosophie ? Oui, il y en a qui ont eu ce privilège. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait ton prof, toi, sur la philo ? Ah, il sortait des références bibliques pour appuyer des arguments. toi aussi, tu as eu ça? Tu as eu des psaumes, toi? D'accord. Et toi? D'accord. Donc, il disait que certains philosophes étaient chrétiens. Je peux le dire. Mathilde, elle a eu une prof de philo qui, elle, disait que toute forme de prosélytisme, que les chrétiens étaient prosélytes et donc qu'on ne pouvait pas être chrétien et philosophe. Je ne vous dis pas comment elle était fâchée. Bien, en fait, je ne suis pas compétente pour vous parler philosophie. Donc, ce que je vous propose, c'est d'inviter un prof de philo. Jérémy. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui poser des questions. Alors, il les a déjà, on les a vues ensemble, je vais être honnête. Et il va vous amener ses réponses. Donc, la première question donc, que je lui ai posée, ou qu'on s'est posée ensemble, c'est qu'en est-il de la philosophie et de la parole de Dieu?
Carrément.
Okay, d'accord,
vous avez 20 minutes.
J'espère que je parle dans le micro.
Oui, oui.
D'abord, bonsoir à tout le monde. Et merci pour m'avoir donné cet accueil. Et de toute façon, c'est peut-être la meilleure façon de me faire fuir que de m'applaudir. Mais merci déjà pour cet accueil. Merci beaucoup. On va essayer de parler. Je ne suis pas non plus un expert. Hein. Je tente de faire. Hein. Je suis prof de philo au lycée. J'étais prof de philo dans mon pays. Et donc, j'espère que je vais repartir et puis reprendre cette réflexion. Mais philosophie et parole de Dieu. Alors, évidemment, le lien, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait parce que vous avez dit que la philosophie, c'est la recherche de Dieu en tant que c'est la sagesse. Évidemment, il n'y a pas de confusion entre philosophie et la Bible. Mais en tant que c'est la sagesse, la philosophie, alors, peut nous amener justement à découvrir autre chose. Il y a des critères, par exemple, que la philosophie nous permet d'avoir. Alors, il y en a qui ont fait la philosophie ici. Je vais rapidement poser une question. Alors, quelle aptitude la philosophie vous a donné? Ça, c'est très bien. Oui. Créativité. Oui, c'est bien.
Poser des questions dans toute situation.
Poser des questions, oui. Oui. Oui, avoir des possibilités, beaucoup de possibilités. Hein. Voir un problème sous beaucoup d'aspects. Oui. Évidemment, ce qu'on appelle la curiosité intellectuelle, c'est aussi, c'est-à-dire que quand on est en face d'un problème, on veut savoir. C'est pourquoi les philosophes se posent des questions qui, a priori, n'ont pas de sens. Mais justement, c'est parce que les questions n'ont pas de sens qu'elles sont des questions. C'est-à-dire qu'ils veulent des sens. Donc, de ce point de vue-là, il y a cette curiosité intellectuelle qui permet d'aller plus loin. Et on l'a dit aussi, il y a aussi cet esprit critique-là. Parce que si on est curieux, du coup, on est curieux pour savoir quelque chose. Donc, finalement, on ne veut pas ce qui vient le premier, mais on veut ce qui est juste, ce qui est vrai. Et pour cela, on doit critiquer forcément. Donc, ça apporte aussi la curiosité, non, la curiosité intellectuelle, mais aussi l'esprit critique.
Alors, quand on a préparé, tu m'as parlé d'un verset biblique, donc je vais l'afficher et je te laisse le commenter.
Oui.
Non, je vais le lire, sachez faire. Donc, alors, ils accueillaient le message de l'évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Et dans ce terme, étudier les Écritures...
Voilà. Alors, de toute façon, pour l'interprétation, pour l'explication... Des voies plus autorisées que moi pour le faire au moment opportun. Mais ce que je veux faire, c'est justement m'arrêter sur étudier les Écritures. Alors, il est dit, ils accueillirent le message, l'Évangile, avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. En fait, dans d'autres versions, on dit carrément, ils sondaient les Écritures. Voilà, il réfléchissait. Étudier les Écritures, c'est essayer, tant que faire se peut, de conformer ce qu'on nous dit par rapport à la source. Donc, c'est vouloir savoir ce qui est vrai, ce qui est juste. Et vouloir savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est seulement avoir une curiosité intellectuelle qui nous permettent effectivement de conforter notre foi, de conforter notre façon de voir le monde et de voir les choses.
Alors, j'ai une autre question. Que chercher dans la réflexion, dans la philosophie ?
Oui, que chercher dans la réflexion ? Oui, puisque justement, il y en a beaucoup qui ont réfléchi. On va essayer de poser une question comme ça pour voir. Qu'est-ce qu'on recherche en réfléchissant ? Les réponses, évidemment. Les réponses. Oui ?
Du sens.
Du sens. On recherche du sens. Oui. Autre chose ? La vérité. On cherche la vérité. Oui, c'est vrai. On recherche du sens. On veut des réponses. Oui.
On cherche à savoir comment réagir face à des situations qui nous arrivent. C'est par exemple, on se retrouve face à une situation où on ne sait pas comment réagir si on y a déjà réfléchi. Et qu'on sait pourquoi on veut faire les choses. Bah forcément, on va agir en conséquence.
Donc c'est réfléchir sur quelque chose qu'on avait déjà vécu pour quelque chose qu'on n'a pas encore vécu pour en tirer les conséquences. Je résume pour le micro.
Voilà, donc on l'a dit, on recherche du sens, on veut la vérité, on se pose des questions. Et on peut faire une relation avec ce que nous avons dans la Bible parce que dans les évangiles, Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité vous libérera, va vous libérer. Alors, donc, il y a un sens à rechercher la vérité, quelle qu'elle soit, d'abord. Et la vérité profonde, en tant qu'elle est source de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, alors, elle vous affranchira. Elle va vous rendre libre. Mais la vérité, elle libère de quoi ? Elle libère des questions, oui, oui, en effet, oui. Oui, elle libère de nos choix, oui. Voilà, voilà, tout simplement,
donc,
effectivement.
Enlever des chaînes qui viendraient de mensonges, donc. Vas-y.
Voilà, donc nous libérer effectivement des mensonges, nous libérer de ce qu'on appelle des informations erronées, nous libérer des chaînes, n'est-ce pas, que peut produire aussi des préjugés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en vérité, qui ne sont pas vraies, mais qu'on affirme par ailleurs. Alors, donc, si c'est pour nous libérer, si c'est pour nous amener à avoir plus de vérité, c'est aussi pour nous amener à plus de lumière, c'est aussi pour nous amener à plus, justement, de confiance en nous-mêmes, dans tous les cas. Et surtout, quand il s'agit, justement, de la Bible, évidemment, cette vérité-là, elle est contenue dans la Bible. Elle est la parole de Dieu. Et elle est Jésus qui s'est fait chair. Alors, cette écriture-là, alors pour nous, est vivifiante. Et donc, elle libère des mensonges qu'on peut avoir en tant que jeune partout. Aujourd'hui, par exemple, sur le net, il y a beaucoup d'informations. Des informations qui ne sont pas toutes vraies, mais qui sont des informations. Quelquefois, c'est de la désinformation, mais ce sont des informations quand même. Il faut essayer d'éprouver ces informations, d'en savoir ce que c'est, et puis vouloir que ces informations nous libèrent et aller à la source, à la bonne source, pour nous libérer, n'est-ce pas ?
Alors, la Bible est une source d'inspiration donc pour nous, aujourd'hui. L'a-t-elle été pour des penseurs célèbres qui étaient philosophes et chrétiens ? Et là, je n'ai pas mis de nom, je te laisse.
Oui, 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 parce qu'effectivement, dans les réponses au départ, d'autres avaient dit qu'ils avaient eu des profs qui ont fait référence à la Bible. Est-ce qu'ils vous ont cité des noms ? Oui.
Oui,
les psaumes. Les psaumes, oui. D'accord, Pascal, oui, déjà c'est un nom. Oui.
Mais Pascal était chrétien.
D'accord, oui. Autre, un autre nom ? Rousseau. Oui, Rousseau c'est plus discutable quand même. c'est plus discutable quand même. Mais Pascal, effectivement. Oui.
Oui. J'ai entendu.
Il y a un doigt.
Oui, oui, vas-y.
Descartes. Oui, Descartes. Effectivement, Descartes, on peut dire qu'il a fait un lien avec Dieu, mais en même temps, comme Rousseau aussi, c'est très discutable. En vérité, quand on voit les textes, on a l'impression que le Dieu dont parle Descartes n'est pas le Dieu forcément des chrétiens. Parce que dans la philosophie en général, il y a aussi cette façon de faire là. À un certain moment, l'Europe était une Europe chrétienne. Et il y avait la censure. Alors, quelquefois, il fallait passer par d'autres façons pour faire passer son message qui, en vérité, n'est pas forcément chrétien. Donc, d'autres personnes ont trouvé des moyens pour le faire sans être forcément chrétien. Mais enfin, il y avait effectivement que Descartes avait cette confiance-là qu'il devrait avoir quelque chose de plus que l'homme. Voilà. Et de la même façon que Rousseau aussi. Même si on peut hésiter avant d'affirmer qu'ils étaient des chrétiens ou pas. Mais Blaise Pascal, effectivement, était chrétien. Et il a défendu, justement, des thèmes chrétiens comme cela. Avant Blaise Pascal, il y en a eu dans la philosophie. Et déjà au 4e siècle après Jésus-Christ, on avait un grand penseur qui s'appelait Augustin, Saint-Augustin, qui, justement, a développé beaucoup de pensées et dont s'est beaucoup inspiré Luther qui a fait la réforme au 18e. Alors, Saint-Augustin, par exemple, a reparlé de la question de la grâce. Et évidemment, d'abord, c'était l'Église encore catholique, et dans cette Église-là, évidemment, on parle effectivement de la question des grâces et tout cela, où il fallait donner de l'argent et tout cela pour être sauvé. Mais il a réaffirmé cette question de grâce-là qui ne pouvait pas s'acquérir par les œuvres. Voilà. Évidemment, ça a été une thèse qui a été reprise par Luther et par Calvin et par les autres pour la réforme et tout ça. On peut aussi citer rapidement, pour passer, on peut citer par exemple un Danois, Kierkegaard, qui a pensé la philosophie. Un Français aussi, Paul Ricoeur qui a pensé la philosophie en relation avec justement la Bible. Et il y a un fonds Paul Ricoeur qui est géré par l'Institut biblique, l'Institut de la théologie, n'est-ce pas, à Paris. Et quand on préparait l'émission, justement, j'ai donc Marido m'a donné une autre information. Il y a un réseau de chrétiens, évangéliques.
J'aurais pu mettre le lien.
Voilà.
Effectivement, pour ceux que ça intéresse, il y a un réseau scientifique évangélique. Alors, j'ai pas mis le lien. Je suis désolée. Je l'ai pas fait. Et parmi eux, donc dans ce réseau de scientifiques évangéliques, je vous en avais déjà parlé quand on avait regardé du côté de la création et de l'évolution. Et vous avez des philosophes, notamment Lydia Ricoeur. Et un certain nombre d'autres personnes, Lydia Jäger, ouais, même en français, j'y arrive pas, Alain Nissus qui a écrit ce bouquin dont il nous avait parlé quand il était venu, pour une fois réfléchi, a fait aussi une licence de philo. C'est une façon de regarder la parole de Dieu avec, aujourd'hui pour nous, dans notre quotidien, dans ce qu'on vit, dans ce que la société pense, dans ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez que la parole de Dieu est actuelle et toutes ces personnes réfléchissent. Si je vous encourage à aller vous renseigner, il y a aussi un site qui s'appelle Science et Foi. Je vous encourage à aller chercher si vous êtes curieux, si vous voulez comprendre un certain nombre de choses. En clair, on peut croire en Dieu, ne pas être naïf, ne pas être bêta, et avoir une réflexion poussée. Alors, ce que je voulais te demander, c'est les sources d'inspiration des philosophes. Sur quoi s'appuient-ils pour philosopher ?
Oui, sur quoi s'appuient les philosophes pour philosopher ? Et comme il y en a qui sont passés par là, voilà, je vais justement revenir vers vous.
Jérémy souhaite que vous participiez.
Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Pour vous, sur quoi les philosophes s'appuient pour développer leur pensée? Oui.
La logique.
Sur la logique, oui. Sur la logique, en effet, parce qu'ils veulent effectivement être cohérents. Sur la logique, d'abord, oui. Ce qui n'est pas logique, oui. C'est-à-dire. Oui. Oui, donc une situation qui a priori semble bizarre, voilà, incompréhensible. Et donc les philosophes disent une situation irrationnelle. Oui, évidemment, on peut partir effectivement de l'irrationnel pour essayer, pour tenter de rejoindre le rationnel, n'est-ce pas ?
Effectivement, c'est cette branche de la philosophie qui va étudier après l'inconscient chez l'être humain, qui s'appelle la psychologie. Et puis après, on a eu la psychanalyse, mais là, c'est encore...
Voilà, parce qu'effectivement, tout ça... Oui, effectivement, il y a ces sources-là. Je vais vous parler de trois sources. Trois sources, on dira, principales, qu'on retrouve très souvent dans la réflexion des philosophes. Il y a d'abord l'étonnement. En réalité, dans les textes, les philosophes nous disent que les anciens philosophes, c'est-à-dire les Grecs en général, alors ont commencé à réfléchir parce que l'univers les étonnait. Ils étaient étonnés de voir un univers si merveilleux. Ils ne pouvaient pas ne pas penser qu'il y avait une intelligence qui avait rendu ça possible. Évidemment, en pareil cas, d'autres pensaient qu'il y avait autre chose qu'une intelligence. Mais pour ce qui nous intéresse, justement, nous allons parler de cela. Alors, un philosophe comme Aristote, c'est un grec, alors pensait effectivement qu'il devrait avoir une intelligence qui a rendu le monde possible. Il raisonnait ainsi. Il disait que, puisque nous constatons que l'homme existe, et que par lui, il y a d'autres choses qui existent, il faut bien que quelqu'un ou quelque chose ait produit l'homme. Mais si nous allons par déduction comme ça, ou si nous allons par inférence, nous sommes obligés de remonter jusqu'à une cause dernière qui n'aurait pas de cause. C'est ce qu'il appelait une cause non causée. Cette cause non causée, Aristote disait qu'elle s'appelait Dieu. C'est cette cause-là qui a donné sens au monde. Évidemment, aujourd'hui, on dit, effectivement, on reprend l'argument d'Aristote, mais on ne parle plus de Dieu. Voilà, on parle d'autre chose. C'est aussi dire pourquoi, effectivement, il y a une certaine ambivalence. Mais après ça, il y a une autre source, ce que les philosophes appellent les expériences limites. Évidemment, on en a parlé, oui, la question de l'irrationnel qui, quelquefois, surgit d'une façon ou d'une autre. Les philosophes appellent expériences limites les expériences difficiles que les gens vivent. Ainsi en est-il, par exemple, de la maladie, la grande souffrance. Quand on vit ces expériences, une expérience comme ça, comme une souffrance, comme une maladie, alors on en arrive à une certaine intuition, à développer certaines façons de penser. Et cela peut produire une pensée rationnelle ou cela peut nous amener à réfléchir à autre chose. Ou quelquefois, nous recouvrons la santé sans, par exemple, passer par des médecins. Et alors, on se pose la question de pourquoi, de comment se fait-il qu'on soit arrivé là. Ça peut aussi être la mort. Il se trouve que dans le monde, aujourd'hui et hier, il y en a qui ont dit qu'ils étaient morts, ils sont revenus à la vie. Alors, donc, ça intéresse les philosophes de savoir ce qu'ils ont vu d'abord dans la mort et pourquoi ils sont revenus, parce qu'ils auraient dû rester. Donc, c'est pour dire que ce sont les expériences limites, ce sont les expériences qui nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes et à donner sens à notre existence. Du coup, pour les chrétiens, alors on peut appeler ça témoignage tout simplement. Dans tous les cas, il s'agit de voir qu'il y a une autre réalité et on pourra peut-être s'appuyer dessus pour aller plus loin. Et ce que je vais évoquer pour finir, il y a d'autres écrits, d'autres sources, d'autres penseurs. Et on s'inspire des gens qui ont déjà pensé, des gens qui ont déjà écrit. Et c'est justement pour cela que, justement, on peut trouver d'autres façons de penser, comme par exemple, justement, des écrits alors, qui ont peut-être existé avant ou pendant que nous sommes là. Des gens qui écrivent encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres sources, évidemment, alors qui sont des sources écrites, ou des sources orales pour justement les civilisations qui justement sont des civilisations orales. Évidemment, on a tout cela. Donc voici trois grandes sources qui inspirent les philosophes. Et la relation peut être faite justement par rapport justement aux hommes de Dieu ou par rapport justement à la Bible. Parce que quand on parle d'étonnement, évidemment, nous ne comprenons pas tout et nous voulons savoir. Et en voulant savoir, alors nous allons justement alors, à la source qui est la Bible, où nous allons vers Dieu qui justement nous dit certaines, qui dit justement pourquoi les choses sont ainsi. Alors nous disons, c'est ce que nous appelons volonté de Dieu. Expérience limite, parce que dans ce sens, j'ai parlé de témoignages, autres écrits, évidemment, on verra bien. Autre écrit, ça peut être la Bible aussi, qui peut justement susciter une réflexion.
Alors, quand je t'ai posé la question de la Bible et de la sagesse, tu m'as parlé d'un passage biblique, dans Jacques. Alors, je vais le lire. Quelques-uns parmi vous pensent-ils être sages et intelligents, qui le prouvent par sa bonne conduite, par ses actes, accompli avec humilité et sagesse. Alors, dans le mot sage et le mot sagesse, je suis allée vérifier, et il s'agit bien de Sophia. Alors, avec les subtilités du grec, suivant qu'on parle d'un homme sage, ça doit être Sophos, sagesse Sophia. Non ? Si, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Je continue. Donc, il est bien question de cette sagesse. Et il est dit, mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, l'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi le désordre de toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté, en action humaine. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ce qui crée la paix autour d'eux, sème dans la paix et récolte. Et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Donc ce message sous-entend qu'il y a deux types de sagesse. Celle d'en haut et celle qui n'est pas du ciel mais terrestre.
Oui. En effet, voilà ce que justement la Bible nous dit. Alors, nous voulons tous la sagesse. Et on l'a rappelé d'entrée de jeu, la philosophie alors vise la sagesse en tant qu'elle recherche effectivement de sagesse. Et d'ailleurs, les anciens philosophes au début disaient que la philosophie c'est une science en vue du salut. Justement, il reste à voir de quel salut il s'agit. Mais voilà, prenons le mot et faisons la relation. Déjà, salut, évidemment, et nous avons sagesse. Et ce qui m'a intéressé justement dans ces versets, c'est juste faire la relation entre justement cette sagesse-là. Il y a cette sagesse d'en haut, n'est-ce pas, et une autre sagesse qui ne serait pas d'en haut, qu'on pourrait peut-être justement, à condition justement de mettre ça entre guillemets, une sagesse d'en bas, c'est-à-dire qu'une sagesse terrestre. Alors, la Bible dit que toute sagesse n'est pas d'en haut. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Cette sagesse-là, alors qui est d'en bas, elle est terrestre, elle est humaine, elle est diabolique même. Donc, finalement, elle n'est pas bonne. C'est une sagesse qui convient à des hommes imparfaits, qui n'ont pas pris conscience de leur imperfection et donc qui restent dans une sagesse imparfaite. Il y a une autre sagesse qui s'oppose à celle-là, mais la sagesse d'en haut est pure d'abord, ensuite elle est pacifique, douce et rationnelle, elle est riche en bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce qui voudrait dire que, justement, cette sagesse-là, elle est bonne. Donc, il y a une meilleure sagesse. Le tout, donc, ce n'est pas de vouloir la sagesse, c'est de vouloir la bonne sagesse. Donc, il faut savoir la sagesse qu'on veut. Évidemment, les hommes veulent la sagesse et ils pensent produire de la sagesse par leur esprit, mais sauf que leur esprit est limité et eux, ils sont aussi limités. Il y a une source illimitée de sagesse. C'est Dieu. Donc, c'est de cette sagesse-là, effectivement, il est question, quand nous parlons de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, et je pense que c'est cette sagesse-là que nous voulons tous.
Alors, j'ai cherché sur Internet, je fais comme vous, hein, j'ai cherché philosophe et chrétien, et j'ai trouvé un autre prof qui donne un témoignage de la sagesse. Alors par contre, il faut que j'aille vers l'ordinateur parce que je pense que le son ne va pas être terrible sur ma tablette. Ce témoignage, c'est aussi parce que ça fait peur, Hein, ces réflexions, ça fait peur d'abord pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Et on a l'impression qu'en certaines personnes parlent, on a l'impression qu'on va se perdre dans leur discours, qui vont nous amener là où on ne veut pas aller. Et comme tu citais dans le passage, il y a une sagesse qui vient d'en haut, il y a une sagesse qui vient d'en bas. La sagesse des hommes, la sagesse de Dieu, ces deux formes de sagesse, c'est compliqué. Et ce qu'on souhaite tous, c'est ne pas s'y perdre, c'est ne pas c'est avoir celle de Dieu. Mais la sagesse humaine, c'est la première qu'on connaît, c'est celle qu'on a le plus l'habitude. Et puis la philosophie humaine peut nous perdre, et quelquefois ça peut faire peur de trop réfléchir sur tout. Et à une certaine époque, il y avait même des chrétiens qui disaient ben « Moi, je prends la parole de Dieu au pied de la lettre et je ne réfléchis pas, je prends comme c'est écrit. » Sauf que dans un des premiers passages qu'on vous a cité, il était dit que les personnes qui écoutaient les premiers apôtres allaient chercher dans l'écriture, allaient, le mot exact, c'était sonder les écritures. Donc Dieu nous demande d'être sages. Alors il y a un prof de philo à qui on a posé la question sur s'il n'y avait pas un danger à trop réfléchir sur ce qui se passe autour de nous. Donc c'est son témoignage. Tu peux lancer l'image, je vais essayer d'avoir le son ici. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir sur la philosophie. Pourquoi, quand j'ai discuté avec Jérémy, je lui ai demandé de faire cette intervention? C'est parce que on est dans une société qui réfléchit beaucoup, et nous les croyants, on doit réfléchir aussi. On n'est pas juste des moutons qui suivent des traditions où le Saint-Esprit agit en nous et on est téléguidé, on n'est pas des Playmobil. On n'est pas des poules, on a une tête. On n'est pas des poissons rouges, on ne tourne pas en rond. On a une tête que Dieu a fait très compétente. Et ce que Dieu nous demande, c'est de regarder la parole de Dieu, c'est de regarder notre société, de vivre dans cette société, de comprendre ce qui se passe dans cette société, au regard de sa parole, au regard de ce que lui en dit, comme faisaient ces gens dont il est parlé dans les Écritures, qui sondaient les Écritures. Et je crois que la philosophie est une réflexion, sur la vie. Évidemment, en France, elle peut être présentée de façon athée pour prendre le contre-pied de la foi, mais comme tous les exemples qu'on a vus ce soir, la parole de Dieu n'est pas contre la réflexion, bien au contraire, Dieu veut que nous réfléchissions, veut que nous nous approprions sa parole, et c'est sûr que si c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, si c'est le Saint-Esprit qui remplit nos vies, je vous rappelle qu'il est dit dans la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc je ne sais pas si vous voyez un temple. Si nous sommes le temple, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Ce Saint-Esprit qui est en nous, il va nous parler par la parole de Dieu, il va nous parler par les messages, mais il nous parle aussi en nous, et il va nous inspirer, il va nous aider à comprendre celui qui a écrit la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Mais tout simplement parce que c'est lui qui l'a inspiré à toutes les personnes qui l'ont écrite. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de savoir que vous aimez un bouquin. Alors, il y a des bouquins à la mode en ce moment. Si jamais l'auteur de... Donnez-moi un titre à la mode d'actualité, hein, vous évitez les choses. L'auteur de... Indigente, non, comment c'est le titre ? Divergente. Si jamais l'auteur de Divergente venait aujourd'hui dans cette salle, est-ce que vous ne viendriez pas avec le bouquin en lui disant tu peux me mettre un mot, tu peux... Dis donc, dans ce passage-là, tu voulais dire quoi ? Eh bien, la parole de Dieu, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est-à-dire que l'auteur de la parole de Dieu, il est prêt à nous l'expliquer. Et Dieu qui a créé le monde est prêt à nous expliquer tout ça. Et ce que je voulais ce soir, c'est qu'on comprenne que Dieu attend de nous que nous ayons un espace de réflexion dans notre vie, qu'on soit capable de réfléchir et pas seulement de gober tout ce qu'on nous dit. C'est marrant parce que moi, quand j'étais jeune, alors autant vous dire que c'est pas hier, on nous parlait beaucoup de quelque chose dont on parle presque plus aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, on nous parlait énormément du retour de Jésus. Autant vous dire que j'avais qu'une trouille, c'était que Jésus revienne avant que j'aie le temps de me faire baptiser. Après, ça a été que Jésus revienne avant que j'aie le temps de me marier, que Jésus... Voilà. Et on parlait beaucoup de la persécution. À l'époque, il y avait... c'était un temps que vous connaissez peut-être pas. Il y avait ce qui se passait en Russie. Il y avait beaucoup de chrétiens persécutés. Le mardi soir, on parle des chrétiens persécutés. Et il y a eu des frayeurs sur la France à un moment, je ne vous dirai pas quand, où on s'est dit, ça y est, les chrétiens vont être persécutés. Et donc, moi, je prenais plein de notes pendant les cultes en me disant, si un jour on est persécuté, je ressortirai mes notes, puis je me ferai mes cultes avec ma Bible, parce que je pensais que je n'étais pas en capacité de m'exhorter, de me faire du bien à travers la parole de Dieu. Et en fait, ce que j'ai expérimenté, c'est que Dieu... on apprend, Dieu veut nous faire avancer, nous faire évoluer par sa parole, il veut nous faire évoluer et comprendre et éclairer sa parole par les messages qu'on reçoit. Et béni soit Dieu parce qu'on reçoit des messages de qualité. Mais le Seigneur veut aussi qu'on soit en capacité, nous, de recevoir ce qui est écrit dans sa parole, d'y réfléchir, de se poser des questions et de se dire, ce passage-là aujourd'hui, comment il me parle à moi, comment il parle de la société, pourquoi est-ce si compliqué, pourquoi y a-t-il des choses qui sont différentes entre ce que je lis dans la parole de Dieu, ce que je vis dans la société. On a réfléchi sur la religion, et on a réfléchi sur la foi, on a réfléchi sur ce qu'est la communion avec Dieu. Ben, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en capacité de comprendre sa pensée, de voir comme il voit, d'entendre comme il entend, de regarder la société avec ses yeux, avec son cœur, et tout ça en sondant les Écritures, en se mettant devant lui. Et il ne faut pas croire que c'est destiné qu'à des personnes, des adultes qui viennent et puis qui vous enseignent. Non, vous, tout un chacun, on est en capacité d'aller étudier. Alors évidemment, on a tous des compétences différentes. Il y a des personnes qui ont des compétences beaucoup plus poussées dans certains domaines. Mais ce que je veux vous encourager ce soir, c'est vous aspirer dans la vie à devenir des êtres, alors, des adultes autonome, c'est-à-dire en règle générale, sans papa et maman dans le dos qui vous dit « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Normalement, à votre âge, on aspire à peu près à ça, ou si vous y aspirez pas, ça va pas tarder. On devient des adultes autonomes, et ben, spirituellement, Dieu nous encourage à être aussi dans cette capacité, non pas autonome vis-à-vis de lui, parce que là, c'est la perte assurée, mais qu'on ait cette capacité de se nourrir dans la parole. Il est dit aussi à un endroit qu'on vous donne du lait parce que vous n'êtes pas capable de manger de la viande. Alors, cherchez pas, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de viande entre les pages de la Bible. C'est juste que soit vous prenez du pré-mâché, soit vous prenez du bon. Par exemple, alors je sais que pour certains, le summum de la gastronomie, c'est McDo et le steak frites ou le hamburger. Mais l'idée derrière, c'est que vous soyez capable vous-même de vous nourrir sans attendre que d'autres viennent vous nourrir, même si c'est essentiel. Le rapport les uns avec les autres va aussi nous faire évoluer, va nous faire réfléchir. Tiens, pourquoi je fais ça alors que l'autre fait comme ça ? Tout ça, c'est pour vous encourager à réfléchir, à utiliser votre tête, pas, et à être vigilant sur ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, voire même des fois, qu'on nous dit, j'entends des fois des gens qui disent « Ouais, mais tu as dit, Seigneur, dans ta parole que… » Puis là, ça me choque un peu, donc je cherche. Des fois, c'est vrai, puis je fais « Ah, je ne l'avais pas vu. Waouh !» Et puis, il y a des fois, je fais « C'est pas tout à fait comme ça que c'est dit, et ils ont tordu le sens des Écritures. » Si vous lisez les lettres de Paul, tordre le sens des Écritures, ils l'ont fait assez rapidement, en fait. Hein, dès que les églises ont commencé à s'ouvrir, dès qu'il y a eu des gens qui ont enseigné, il y avait Paul, il y avait Pierre qui passait, puis derrière, il y avait des gens qui arrivaient en disant « Ah ouais, mais on dit que… » Et puis, pof, Paul a fait… Si vous lisez les épîtres de Paul, ben Paul il passe son temps à dire ah oui mais attendez, on vous dit ça mais la parole de Dieu elle sait ce qu'elle dit, et donc ça, c'est Paul qui parle de sagesse aussi, qui parlait de sagesse, et ben, sans devenir aussi compétent, approfondi en philosophie que quelqu'un qui aurait fait des longues études comme Jérémie et comme bien d'autres, moi je vous encourage à réfléchir, à vous mettre devant Dieu pour que Dieu fasse de nous à chacun à notre niveau des gens qui aiment la sagesse de Dieu. Donc je vous encourage à devenir des philosophes, philo, sophie, des gens qui aiment la sagesse divine. Donc je ne sais pas comment ça fera en grec, mais je vous encourage à devenir des philosophes de notre Dieu, des philosophes inspirés par notre Père Tout-Puissant. Et ce que j'aime beaucoup dans le passage qui précède, moi je suis fan d'un thème dans la Bible, c'est que l'on devienne des ouvriers de paix, qu'on devienne ces gens qui apportent la paix autour de nous. Ça, c'est vraiment un de mes points clés. Je voudrais que ma vie soit la vie de quelqu'un qui amène la paix. Et cette paix que l'on peut amener, on l'amène parce qu'on a la sagesse d'en haut. Et vous savez quoi ? Ce que j'aime dans les béatitudes, vous savez ce qu'ils disent de ceux qui procurent la paix ? Eh bien oui, c'est celle qu'on connaît moins bien. C'est la dernière. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Et moi, ça j'en veux. Donc, sauf que cette paix, on peut l'amener que si on a une sagesse intérieure. Cette sagesse, c'est celle de Dieu. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prie pour que Dieu fasse de nous ces gens qui aiment la sagesse de Dieu, qui aiment cette sagesse, que Dieu fasse de nous des philosophes. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as pas fait seulement des exécutants, tu as pas fait de nous des personnes qui sont des automates ou des robots conduits par des personnes à l'extérieur. Tu ne nous manipules pas, tu ne fais pas de nous des personnes sans discernement. Tu nous as laissé cette liberté, et cette liberté, c'est en toi que nous avons cette liberté. Cette liberté, tu nous l'as donnée parce que tu nous as donné aussi cette capacité de réfléchir et de savoir faire des choix. Et Seigneur, dans cette société où nous vivons aujourd'hui, où tout est compliqué, entre ce que dit ta parole, ce qu'on croit en comprendre, et ce que dit la société et ce qu'on croit en comprendre, entre les aspirations de ton cœur de Père et les aspirations de notre société, Seigneur, nous pouvons être perdus. Et ce soir, ce que je te demande pour chacun d'entre nous, c'est que ce soit ta sagesse qui nous conduise, qui nous dirige, que nous devenions ces philosophes de la parole de Dieu, ces philosophes de la grâce, ces philosophes de la paix, ces philosophes de la sainteté. Seigneur, nous voulons aimer ta sagesse. Saint-Esprit, nous voulons te dire, prends plus de place en nous et aide-nous à chaque instant à refléter le cœur de Dieu, à refléter la pensée de Dieu, à refléter la vision divine pour notre vie, pour notre société, pour ces gens qui se perdent autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement faible vis-à-vis de ces choses, tellement facile à influencer. Seigneur, nous voulons que l'influence sur notre vie soit la tienne. Nous voulons, Seigneur, que ce qui pilote notre vie, nos pensées, notre réflexion soit ta pensée. Saint-Esprit, prends toute la place dans notre esprit et que nos émotions, notre réflexion et notre volonté soient complètement sous ta main, complètement dans ta compréhension, dans ta volonté. À toi soit la gloire dans notre vie, à toi soit la gloire dans l'avenir de chacun de ces jeunes, à toi soit la gloire dans notre quotidien. Et c'est vrai, Seigneur, que nous puissions être dans ce monde qui nous entoure, ces personnes qui font la différence parce qu'on les remarque par leur sagesse, par leur discernement, par leur solidité aussi dans ces moments de tempête, parce que cette sagesse, elle est intérieure et pas extérieure. À toi soit la gloire parce que tu nous as fait dépositaires de ta sagesse, tu nous as fait dépositaires de ton amour, tu nous a fait dépositaire de ta puissance. Seigneur, nous voulons te bénir et t'honorer et te glorifier, et que l'intégralité de notre vie te glorifie. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.